Vous écoutez, on lit pour vous.
Pierre Vallière, héros de notre histoire. Un texte de Serge Fizette, paru le 24 septembre 2025 dans le magazine Fugue. Personnalité complexe et tourmentée, rebelle et marginale, Pierre Vallière a été qualifié tour à tour d'indépendantiste, socialiste, révolutionnaire, felkiste, terroriste, péquiste, militant gay, internationaliste, mais aussi chrétien. On pourrait rajouter qu'il a été critique d'art et cofondé la galerie d'art La Relève, située sur la rue Saint-Denis, en face du Carré Saint-Louis. Aujourd'hui, il est surtout connu comme militant de la gauche et de la cause indépendantiste. Dans les années 1960, note Jean-François Nadeau, Pierre Vallière sonnait une sorte de réveil des consciences à lui tout seul. Il ira jusqu'à dénoncer la situation du Québec devant l'ONU à New York. Un geste qui lui vaudra d'être arrêté et emprisonné. C'est lors de son séjour carcéral qu'il entreprend son célèbre pamphlet « Nègre blanc d'Amérique », autobiographie précoce d'un terroriste. Comparant le combat des Québécois à celui des Afro-Américains, il incite à prendre les armes si l'on veut accéder à l'indépendance. Né le 22 février 1938, Pierre Vallière a grandi dans le quartier populaire et ouvrier des usines Angus à Montréal, où la misère était au rendez-vous. Cela l'a profondément marqué, l'amenant à se tourner résolument vers les plus démunis de la société. Entre autres, il créera dans le quartier Centre-Sud l'organisme Au pied du courant afin d'aider les moins nantis, car, toujours, c'est la quête de justice sous de multiples formes qui l'anime dans ses engagements sociaux. Une quête de justice issue sans doute de l'incessante recherche de Dieu qu'il poursuivra durant toute sa vie. Déjà, en 1958, il entre au noviciat puis au monastère des Franciscains sous le nom de Frère Flavien, habité, dit-il, par cette paix qui accompagne la folie des malades mentaux euphoriques. L'année suivante, il rejoint la communauté des Petits Frères de Jésus à Saint-Rémy-de-Provence, en France. Deux décennies plus tard, en 1983, ayant perdu puis retrouvé la foi, il créera la communauté La Pierre, vivante, dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal, ce qui lui permet de renouer avec son passé religieux et d'œuvrer en faveur de la justice sociale. Mais c'est d'emblée par ses multiples écrits, souvent polémiques, que Pierre Vallière en vient à préciser sa pensée et à expliquer le sens de sa démarche et de ses actions. En plus de publier dans nombre de journaux et magazines, dont Cité libre, Vie ouvrière, La Grande Jaune, Temps fou, La Presse, Le Jour et Le Devoir, il cofonde en 1964 la revue Révolution québécoise et fait paraître plusieurs essais. Il accepte même que soit édité Noces obscures, un roman qu'il a écrit à 20 ans. À l'époque, il le soumet au poète Gaston Miron, qui l'encourage à le publier. Mais Vallière détruira le manuscrit sans savoir que Miron en avait gardé une copie qui sera publiée en 1986. Déjà, dans cet ouvrage de jeunesse, il fait dire à son personnage qu'il faut monter sur les toits et hurler. À l'âge de 44 ans, Vallière décide d'assumer son homosexualité et s'engage activement dans l'Association pour la défense des droits des gays et lesbiennes. Il collabore au magazine Le Berdache. Dans sa chronique intitulée « C'est encore loin l'amour », il analyse les enjeux de la communauté gay, notamment la nécessité de s'impliquer sur le plan politique. Dans l'édition de novembre 1981, il affirme de façon prémonitoire que la période actuelle de notre histoire est la plus dangereuse que le monde ait connue depuis la barbarie nazie. C'est entre le système totalitaire soviétique, où l'appareil militaire pèse d'un poids croissant, et le système libéral, dominé par des oligarchies peu représentatives, que se décidera le destin de l'humanité. Avec toute l'horreur de la guerre en Ukraine qui sévit aujourd'hui, voilà un texte qui, rédigé il y a plus de 40 ans, s'avère toujours d'une brûlante actualité. Pour en apprendre davantage sur cette figure mythique des années 1960-1980, on consultera le fonds d'archives de Pierre Vallière conservé au Centre d'archives de Montréal de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. On pourra également lire la biographie que lui consacre Daniel Samson-Legault, dissident, Pierre Vallière, 1938-1998. Au-delà de Nègre blanc d'Amérique, paru chez Québec Amérique, rappelons que le poète Gilbert Langevin lui a dédié son poème Le temps des vivants, mis en musique par François Cousineau et sera chanté par Pauline Julien. Que finisse le temps des prisons, passe, passe le temps des barreaux, que finisse le temps des esclaves, passe, passe le temps des bourreaux. Pierre Vallière est un héros de notre histoire qui mériterait grandement d'être réhabilité sur la place publique. Par exemple, avec un espace urbain montréalais portant son nom, une rue, un parc, un square. Il faudrait pour cela constituer un comité de réhabilitation. Qui prendra l'initiative? C'était Pierre Vallière, héros de notre histoire. Un texte de Serge Fizette, paru le 24 septembre 2025 dans le magazine Fugue.
Les moutons de Biquette débarquent en ville. Un texte d'Émilie Côté, paru le 26 mai 2024 dans la presse. Venez les cocos, lance Annie Cloutier, alors que 12 moutons débarquent d'une remorque pour aller croquer à pleines dents dans des trèfles et des pissenlits. Quelle aventure, s'exclame celle qui est l'une des responsables de l'organisme Biquette Éco-Pâturage. La scène est aussi attendrissante qu'inhabituelle. Nous ne sommes pas au milieu d'un champ, mais au parc Armand Bombardier de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. C'est le plaisir d'avoir de la campagne en ville, ne pourrait mieux illustrer le bénévole Mathieu Ménard. De plus en plus connu des Montréalais, les moutons de Biquette sont arrivés à Montréal mardi matin après avoir quitté la ferme Berthe Rousseau à Durham Sud, dans les cantons de l'Est. C'était la première fois que Denis Rondeau transportait des animaux de ferme dans l'île de Montréal. Il va revenir à la fin du mois de juin pour le déplacement du troupeau au parc Maisonneuve, où Biquette a son repère depuis plusieurs étés avec des poules et un potager. Les moutons ne sont pas qu'une simple source d'agrément. En broutant et en ruminant, les bêtes font de l'éco-pâturage. En d'autres mots, elles sont une solution de rechange écologique aux tondeuses pour entretenir des espaces verts. L'éco-pâturage écrase moins le sol que les tondeuses et le fertilise. C'est moins bruyant pour les oiseaux, selon Mathieu Ménard, bénévole. Des bénévoles fidèles au poste. Les quelques 150 bénévoles de Biquette se relaient au parc de 9h à 19h. Avec leur bâton de berger ou un balai, ils veillent à ce que les moutons restent ensemble et ils s'assurent de leur bien-être. Ils s'occupent aussi de l'entretien de la bergerie et de son approvisionnement en foin pendant la nuit. Michel Brisson fait du bénévolat depuis une dizaine d'années, notamment au sein de banques alimentaires. « Histoire de s'occuper, dit l'homme retraité. Je ne pensais jamais un jour m'occuper de moutons. » Michel a eu une formation et moins de 24 heures plus tard, il était entouré de têtes frisées au parc Armand Bombardier. Quand on fait du bénévolat, il faut être ouvert d'esprit. C'est mon chum Richard qui m'a dit « Viendrais-tu garder des moutons ?» C'est zen, vante justement Richard. C'est beau de voir les gens s'arrêter et de voir que les moutons rendent leur journée spéciale. Mathieu Ménard se souvient encore de la première fois qu'il a aperçu les moutons de Biquette au parc Maisonneuve. C'est improbable et magique, dit-il, de partager avec d'autres gens l'émerveillement de croiser des moutons en ville. Comme bénévole, il aime éduquer les gens curieux à propos de l'éco-pâturage et il affectionne le contact apaisant avec les animaux. On apprend à connaître les moutons avec leur petite personnalité, explique-t-il. Comme beaucoup de bénévoles et d'employés de Biquette, Charlotte Leclerc l'est devenue par hasard, en chemin pour un cours au cégep Maisonneuve. En voyant les moutons, elle a eu une sorte de révélation. Elle a passé le reste de la journée et celle du lendemain avec eux. Aujourd'hui, elle est l'une des bergères responsables. Recherchiste de métier, Annie Cloutier a quant à elle suggéré à sa fille de devenir bénévole pour Biquette avant de donner un coup de main à son tour. De fil en aiguille, elle est devenue une employée phare de Biquette et une véritable agricultrice urbaine. Un grand attachement s'est créé envers l'équipe et les moutons, dit la femme au grand cœur. Il faut savoir que les moutons appartiennent à la fondatrice de Biquette, Marie-Ève Julien-Denis, mais que cette dernière souffre de la maladie du poumon du fermier. Appel à tous. L'équipe de Biquette cherche une ferme, idéalement dans le Grand Montréal, où les moutons pourraient passer l'hiver. Ce serait plus pratique pour les bénévoles qui continuent d'en prendre soin. Et l'OBNL pourrait organiser des visites éducatives et scolaires dont les revenus permettraient de pérenniser son existence. Tous les arrondissements et les institutions qui ont de grands terrains à entretenir peuvent demander à Biquette si ses moutons peuvent y passer du temps. Il est aussi question de projets de recherche avec des étudiants, ajoute Annie Cloutier. Sachez qu'on peut soutenir les activités de Biquette éco-pâturage en achetant des granulènes, soit de l'engrais fabriqué par les Laines Findor, un éleveur et producteur de laine situé près de Sherbrooke. Biquette lui remet une partie de sa laine et celle, qui est souillée et de mauvaise qualité, sert à faire des fertilisants. Les granulènes contiennent plus d'azote que de l'engrais de poule, souligne Annie Cloutier. C'était « Les moutons de Biquette débarquent en ville », un texte d'Émilie Côté paru le 26 mai 2024 dans La Presse.
Keb, les mots sous la loupe. Un texte de Sylvain Sarrazin paru le 24 août 2025 dans La Presse. Coup de projecteur sur un mot de vocabulaire, intriguant ou étonnant, naviguant dans l'air du temps. Carte d'identité, Keb, K-E-B. Définition, nom ou adjectif correspondant à québécois pour désigner soit un individu, la musique ou le français du Québec. Formation, diminutif de l'adjectif québécois ou du nom québécois, parfois orthographié que Q-U-E-B. Attestation, a fleuri à l'aube du 21e siècle, particulièrement à partir de 2002, dans son sens actuel et ses deux graphies, dans un contexte de culture littéraire ou musicale, notamment le rap, indique la lexicographe Nadine Vincent. Avant de faire l'objet d'un débat sur fond d'enjeux identitaires, le mot « keb » a émergé dans la sphère culturelle et notamment dans le rap québécois. « Mon français est zéro, mon hip-hop vient d'icit, mon joual t'envoie des mots, c'est un drop slang 100% keb », chantait le rappeur sans pression dès 1999, souligne le dictionnaire du Chiller de Jérôme 50. On le retrouve plus dans certains contextes, dont la musique, la littérature, dans la culture des jeunes en général. Mais il sort de plus en plus de cette génération, et s'il était très montréalais au début, il commence à sortir de son berceau, indique Nadine Vincent, professeure au département de communication de l'Université de Sherbrooke. Un sens débattu. En 2024, le chroniqueur Jean-François Lisée plaçait le terme sous les projecteurs dans un texte où il dénonçait le mépris des Keb et une atmosphère anti-francophone dans certaines écoles de la province. Bien que la chronique n'aille pas explicitement dans ce sens, l'idée selon laquelle cette abréviation aurait une connotation péjorative s'est frayé un chemin sur la place publique. Une vision rejetée par Mme Vincent. Y a-t-il un sens inclusif, exclusif? Je n'en suis pas convaincue. On a des témoignages de jeunes qui sont d'origine marocaine, mais se disent keb et fiers de l'être. Cela me semble similaire à la substitution de Canadien-Français par Québécois. Keb a une dimension identitaire pour certains, mais il est toujours remplaçable par Québécois. C'est juste une façon nouvelle de dire le mot. Bref, ce n'est pas Keb qui est porteur d'une connotation, c'est le contexte. Vendu. Pour étayer son propos, l'universitaire se réfère aux recherches effectuées par son équipe et l'étudiante à la maîtrise, Laetitia Chiquan, qui a donné une conférence sur le sujet l'automne dernier. On constate une utilisation de plus en plus large du mot récupéré par la sphère publicitaire et commerciale, souhaitant souligner un aspect vocal, voire une fierté provinciale. Un resto de Québec sert un spaghetti Keb. Un commerce de Trois-Rivières s'est baptisé Keb Magasin Général. Tandis que l'entreprise Keb Produits Sauvages fabrique des boissons locales. Au printemps 2025, une série documentaire intitulée « Devenir Keb » a été diffusée à Télé-Québec, présentant des parcours d'immigrants. Alors, péjoratif, Keb? On voit qu'il est en train de se normaliser, constate Nadine Vincent. Parmi les deux graphies en usage, l'une prédomine-t-elle? Dans les statistiques collectées par les chercheurs, la forme avec QU semble légèrement plus employée, mais reste talonnée par celle avec K. Même si le QU permet de mieux comprendre qu'il s'agit de l'abréviation de Québécois, plus le mot s'implantera, moins il sera nécessaire, et le K pourrait dominer. Prévoit la lexicographe qui évoque en clin d'œil la bande dessinée Beaujoal, le Huron québécois avec K, laquelle laissait déjà entrevoir l'impact plus brut de la lettre grecque. Avec un K, c'est un peu comme si on revenait à l'essentiel. J'ai déjà vu la mention culture Keb, K-E-B. C'est comme une signature de plus, note-t-elle. À vous de jouer. Parmi les surnoms suivants, lequel n'est pas utilisé par un peuple pour se désigner? A. Les Kenyans emploient le terme Mufasa pour se désigner eux-mêmes en référence aux animaux de la savane africaine. B. Au Costa Rica, les habitants locaux s'appellent entre eux Ticos et Ticas parce qu'ils ont l'habitude d'ajouter les suffixes Tico et Tica à de nombreux mots. C. Les Néo-Zélandais se surnomment eux-mêmes Kiwi, en référence à leur oiseau national. Bonne réponse, le surnom Mufasa n'est pas utilisé par les Kenyans pour se désigner eux-mêmes. C'était Keb, K-E-B, les mots sous la loupe. Un texte de Sylvain Sarrazin paru le 24 août 2025 dans La Presse. Faire le bien fait du bien. Un texte de Marissa Grosguet paru le 24 août 2025 dans La Presse. Tout porte à croire que le bien que l'on fait pour les autres, sans rien attendre en retour, est le plus moralement juste, mais aussi le plus gratifiant. L'altruisme serait l'un des chemins les plus courts vers le bonheur. Quelques activistes sur mon fil Instagram semblent avoir fait de la défense de leur cause toute leur personnalité, en partie ancré dans une recherche de reconnaissance et dans une volonté de paraître plus engagé que les autres aux yeux du monde, leur militantisme agit pour le bien, mais peut devenir toxique. L'une d'elles a, par exemple, reproché à certaines de mes amies de ne pas avoir pris la parole de la bonne façon lors de leur prise de position publique sur un enjeu d'actualité, les décourageant ainsi de continuer à s'exprimer. Sans se questionner elle-même, elle leur a attribué un activisme performatif, soit un affichage public de son soutien à une cause, de façon à embellir sa propre image. Je sais pourtant que mes amis, sans l'afficher, se questionnent constamment sur les façons de venir en aide à ceux qui en ont besoin. Comme beaucoup d'entre nous, elles tentent, à leur manière, de faire les bons gestes pour faire le bien autour d'elles. Alors, quelle est la valeur du bien que l'on fait lorsqu'il a pour but premier d'être applaudi? Surtout, y a-t-il une plus grande gratification à agir avec un altruisme désintéressé? Celui qui ne cherche qu'à donner, sans rien recevoir? Les grands courants philosophiques sont partagés sur le sujet, même si l'altruisme fait partie de toutes les morales, selon Claude Piché, professeur honoraire au département de philosophie de l'Université de Montréal. Les stoïques pensaient qu'il faut servir les autres, sans rechercher admiration ou sympathie, ce qui permettrait de mener une vie plus épanouie. Pour les utilitaristes, qui espèrent maximiser le bonheur pour le plus grand nombre, l'action est morale tant qu'elle accomplit le bien, qu'elle soit accomplie dans l'espoir d'être payée pour sa peine ou par devoir. Aux yeux de Nietzsche, il y a dans la magnanimité le même degré d'égoïsme que dans la vengeance. L'altruisme peut ainsi être considéré comme une catégorie de l'amour-propre, puisqu'on se valorise par nos gestes bons. Historiquement, l'altruisme est associé au courant religieux. Les bouddhistes en font un concept central. L'aumône est un des piliers de l'islam. Le Christ était l'altruiste en chef. Ces valeurs sont bien souvent affiliées à l'espoir d'une récompense divine. Agis uniquement d'après la maxime qui fait que tu puisses vouloir, en même temps, qu'elle devienne une loi universelle, disait Emmanuel Kant, écartant toute notion d'émotion, de bonheur ou de conséquence. Ainsi, d'un point de vue où la vertu pure est priorisée, ce qui, disons-le, s'applique rarement dans notre monde contemporain, l'idée d'être fier de soi, de se sentir agir de la bonne façon, est une récompense que les plus rigides philosophes rejettent. Mais un acte accompli pour le bien, s'il apporte chez quelqu'un la satisfaction d'avoir été vertueux, devient-il vraiment vain? Dans la vie, même s'il voulait trouver un principe fondamental, Kant savait qu'il ne fallait pas s'illusionner et que si un geste généreux nous apporte un sentiment du devoir accompli et du plaisir, il n'est pas purement éthique. Mais ce n'est pas grave, affirme Claude Piché. Eudémonisme, quand tu nous tiens. Pour mieux comprendre le bien qu'apportent les gestes bons, empruntons plutôt un point de vue psychologique. Plusieurs études constatent que de faire des gestes bienveillants sans récompense ni reconnaissance, mène à un épanouissement plus grand. Une analyse publiée en 2021 dans le Journal of Positive Psychology, menée par deux chercheurs de l'Université du Missouri à Columbia, conclut que de tenter de rendre quelqu'un d'autre heureux mène à un meilleur bien-être subjectif que d'essayer de se rendre heureux soi-même. Cet altruisme est même plus bénéfique que lorsque d'autres tentent de nous rendre heureux. Une équipe internationale de neurobiologistes a également décelé qu'un comportement généreux active des mécanismes cérébraux modulant une sensation de bonheur. Ainsi, il n'y a pas vraiment de scission possible entre le geste généreux et le bénéfice que l'on ressent, quoi qu'en pense Kant. Si faire le bien nous amène également un soulagement, une fierté ou même une meilleure estime de nous-mêmes, sans intervention extérieure, tout le monde y gagne. Pourquoi ce lien si direct entre la gentillesse active et le bonheur subjectif? En partie parce que la compassion permet un regard plus positif sur le monde extérieur, ce qui affecte notre bien-être, selon la professeure de psychologie américaine Sonja Lyubomirsky, qui a traité du sujet dans plusieurs ouvrages. Elle estime aussi que face aux horreurs du monde, faire le bien est un moyen de se soulager d'une partie de notre inconfort. Surtout, mentionne-t-elle finalement, l'altruisme peut déclencher des réactions sociales qui répondent aux besoins primaires des êtres humains de connecter avec les autres. Un sourire, une conversation agréable, une sensation de proximité avec celui que l'on aide, même s'il s'agit d'un don pour aider à acheminer de la nourriture à des milliers de kilomètres de soi. Créer des liens significatifs nous apporte beaucoup de bien. Note Mireille Joussemet, professeure de psychologie à l'Université de Montréal. Selon elle, si l'on considère le bonheur hédonique, le plaisir et le confort immédiat, et le bonheur eudémonique, l'état de bien-être durable, profond et résultant de la recherche de sens et de vertu, on peut saisir pourquoi l'altruisme est source du second type de bonheur, celui qu'il est préférable de poursuivre pour une vie épanouie. C'était « Faire le bien fait du bien ». Un texte de Marissa Grosguet, paru le 24 août 2025 dans La Presse.